Vous écoutez On lit pour vous.
Une femme aux commandes. Un texte d'Éric Dussault, paru le 10 mars 2026 dans La Presse. Beaucoup de Québécois ont changé le cours de l'histoire, même si la plupart restent méconnus. Dialogue s'attarde donc à l'occasion à une personnalité qui a façonné le Québec. L'historien et auteur Éric Dussault nous parle d'Elizabeth Taylor Davie, 1803-1860, première femme à gérer un chantier naval. Une histoire d'amour peut-elle être à l'origine de la création d'un chantier naval? Le cas du chantier Davie à Lévis, sur la rive sud de Québec, nous montre bien que oui. C'est le mariage d'Elizabeth Taylor avec Alison Davie en 1825 qui en est à l'origine. À la suite du décès de son mari et en raison de la mauvaise santé de son père, Elizabeth est ainsi devenue la première femme à diriger seule un chantier naval au Canada. Elizabeth Taylor est née en 1803 à North Shields, en Angleterre, et elle est arrivée à Québec en août 1811 en compagnie de ses parents. Son père, George Taylor, exploite un chantier naval à l'île d'Orléans, puis un autre à l'embouchure de la rivière Saint-Charles à Québec. 11 ans plus tard, Elizabeth fait la connaissance d'un géant d'origine écossaise dont le poids avoisine les 300 livres, Alison Davie. Il est capitaine sur des vaisseaux transatlantiques. Il fait une cour assidue à Elizabeth qui lui est tombée dans l'œil. Or, avant d'accepter de donner la main de sa fille Alison, George Taylor exige que l'Écossais renonce à sa carrière de capitaine et devienne à la fois son associé en affaires et son héritier. Il ajoute une autre condition, que les patronymes Taylor et Davie soient attribués aux futurs enfants du couple. Alison accepte de se plier aux exigences de George, ce qui lui permet d'épouser Elizabeth à l'église presbytérienne St. Andrews de Québec le 16 avril 1825. Cette union est considérée comme l'événement fondateur de l'association entre George Taylor et Alison Davie. 4 ans plus tard, Alison Davie achète un terrain de 400 pieds à la Pointe-Lévis pour y aménager un plan de halage, puisqu'il a convaincu son beau-père de se concentrer sur la réparation plutôt que la construction de navires. C'est là une excellente initiative. Plus de 700 bateaux se rendent au port de Québec annuellement, et il est fort probable que nombre d'entre eux aient un accident ou des ennuis mécaniques sur le capricieux fleuve Saint-Laurent. Et qui pourra intervenir en priorité dans de pareilles circonstances, en les remorquant puis en les réparant? Le chantier d'Alison et de George, évidemment. Le destin d'Alison prend toutefois une tournure inattendue et dramatique le 9 juin 1836. À bord d'une chaloupe, il perd malencontreusement pied en voulant récupérer un mouchoir rempli d'amandes et se noie. Ses enfants sont alors trop jeunes pour succéder à leur père à la tête de l'entreprise. C'est donc Elizabeth qui prend le contrôle du plan de halage avec l'aide occasionnelle de son père, dont la santé est chancelante, jusqu'en 1841. À partir de cette date, elle devient seule maître à bord. Elizabeth est alors la première femme à diriger un chantier naval au Canada. Âgée de 33 ans, elle a aussi 7 enfants à sa charge, en plus d'être enceinte d'un 8e. On pourrait croire que les ouvriers et les clients désapprouvent l'arrivée d'une femme à la tête du chantier de la Pointe-Lévis. Or, ce n'est aucunement le cas, puisqu'Elizabeth est la fille et la petite-fille de constructeurs navals. Elle connaît donc très bien cet univers. Il y a longtemps qu'elle se rend en forêt pour y sélectionner les arbres adéquats pour la réparation et la construction de navires. Ce qui est différent depuis 1841, c'est qu'elle guide seule les apprentis, avec lesquels elle a une attitude bienveillante, et dirige seule les travailleurs, ce qu'elle fait d'ailleurs d'une main de fer. Afin de s'assurer que les jeunes apprentis ne perdent pas leur paix, Elizabeth la coud dans leur poche. De plus, la patronne tient bien serré les cordons de la bourse et inspecte chacun des bateaux qui sont remorqués pour être réparés. Avant de les remettre à l'eau, Elizabeth s'assure que les travaux ont été correctement exécutés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle son plan de halage a la réputation d'effectuer un travail de très grande qualité. En 1850, une fois que l'apprentissage de son fils George Taylor Davy est terminé auprès du maître constructeur John Moon de Québec, Élisabeth lui cède les rênes du chantier. 10 ans plus tard, le 10 octobre 1860, Élisabeth Taylor Davy meurt à l'âge de 57 ans. On doit à Élisabeth Taylor Davy la survie du plan de halage de la Pointe-Lévis. Sans elle, l'entreprise fondée par son père et son mari aurait pu disparaître, comme ce fut le cas de tant d'autres chantiers navals à la même époque. Pouvait-elle imaginer, en cédant la gestion de l'entreprise à son fils de 22 ans en 1850, que le chantier Davy célébrerait son 200e anniversaire en 2025? C'était « Une femme aux commandes », un texte d'Éric Dussault, paru le 10 mars 2026 dans la presse.
Banksy démasqué. Un texte de Marissa Grosguet, paru le 17 mars 2026 dans la presse. Il s'appellerait Robin Cunningham. L'identité de l'artiste Banksy aurait été révélée par une large enquête de Reuters il y a quelques jours. Pourquoi le célèbre graffeur a-t-il toujours caché son nom et son visage? Et pourquoi vouloir à ce point démasquer celui qu'on surnomme le pape de l'art urbain? Décryptage. Une identité intrigante. Actif depuis les années 1990, Banksy a rapidement eu recours au pochoir pour laisser sa marque sur les murs d'Angleterre puis du monde. Le message de ses œuvres est anti-guerre, anti-capitaliste, anti-racisme et pro-environnement, dénonçant la violence tout en promouvant l'amour et l'espoir avec des images frappantes. Engagé et provocateur, le militant politique a toujours tenté de préserver son anonymat. Depuis les années 2000, certains ont tenté de découvrir qui se cache derrière les pochoirs. Dans une entrevue de 2003 pour le Guardian, le journaliste Simon Hattonstone l'a décrit comme un homme blanc de 28 ans, portant une dent, une chaîne et une boucle d'oreille en argent. Précisant qu'il tenait à cacher son identité parce que le graffiti est illégal. 5 ans plus tard, le Mail on Sunday a affirmé pour la première fois que Banksy s'appellerait Robin Cunningham, qu'il serait né en 1974 dans une ville non loin de Bristol, en Angleterre. Depuis, plusieurs théories sur l'identité de l'artiste ont émergé. Certains ont notamment présumé avec insistance qu'il est Robert Del Naja, membre du groupe Massive Attack et artiste urbain. D'autres ont plutôt affirmé ces dernières années qu'il s'agit de James Hewlett, dessinateur des personnages du groupe Gorillaz. L'enquête. Le nom Robin Cunningham semble finalement être la réponse à la question qui plane depuis 3 décennies. C'est du moins ce qu'avance l'agence de presse Reuters, qui a publié le 13 mars 2026 une enquête d'envergure visant à démasquer l'artiste. En se basant sur un rapport de police et un aveu signé datant de 2000, après que l'homme eût été arrêté à New York en lien avec une œuvre attribuée à Banksy, les journalistes de Reuters déclarent avoir établi avec certitude l'identité de l'artiste. D'ailleurs, Robin Cunningham aurait changé de nom pour David Jones, mentionne Reuters, un nom très répandu au Royaume-Uni et dont l'agence de presse ignore s'il l'utilise encore. Mais après l'apparition de graffiti de Banksy en Ukraine en 2022, son enquête a démontré qu'un David Jones ayant la même date de naissance que Cunningham venait de traverser la frontière du pays. Ni Banksy, ni ses représentants n'ont confirmé ce que revendique l'article. Son avocat de longue date, Mark Stevens, avait demandé que l'article ne soit pas publié car la liberté d'expression de Banksy serait bafouée s'il ne peut agir dans l'anonymat, surtout lorsqu'il aborde des sujets sensibles. Rappelant que Banksy est devenu au fil des ans une fierté nationale britannique, Reuters estime que la question de son identité est importante pour le public. Soulignons que son nom a été dévoilé, mais que son visage reste pour l'instant toujours inconnu. De la petite fille au ballon, au mur de Kiev. Les œuvres de Banksy ont marqué leur époque. Son style de pochoir, ses messages subversifs et son humour noir ont fait de lui l'un des artistes contemporains les plus connus. En 2002, le graffiti Girl with a Balloon, l'une de ses œuvres phares, est apparu pour la première fois à Londres, sur le pont de Waterloo. L'œuvre était initialement accompagnée des mots « There is always hope », il y a toujours de l'espoir. D'autres peintures de Banksy ont marqué les esprits. Kissing Coppers, montrant deux policiers s'embrassant, Pulp Fiction, John Travolta et Samuel L. Jackson, dans leur personnage du film de Tarantino avec des bananes à la main plutôt que des armes, ou encore Flower Thrower, un homme au visage partiellement recouvert, s'apprêtant à lancer un bouquet de fleurs. Cette dernière œuvre, également parmi les plus populaires de Banksy, a été peinte en Cisjordanie avec quelques autres. Plus tard, en 2018, une version imprimée de Girl with a Balloon a été mise aux enchères pour plus $1 million, mais c'est à moitié déchiqueté juste après que la vente a été officialisée par le coup de maillet. L'artiste a indiqué plus tard avoir prévu que l'œuvre soit complètement détruite et l'a renommée « Love is in the bin », l'amour est à la poubelle. Ces dernières années, plusieurs œuvres murales de Banksy sont apparues dans des villes d'Ukraine, dont la capitale Kiev, en opposition à l'invasion russe. On ne sait pas combien d'œuvres murales Banksy a à son actif. Grâce à ses réseaux sociaux, dans une ère où les reproductions et les pastiches sont nombreux, Banksy peut, toujours anonymement, confirmer la paternité d'une nouvelle œuvre lorsqu'elle apparaît sur un mur dans le monde. Ce que le public veut. Le journal Le Parisien a soulevé mardi la question suivante. Le public a-t-il vraiment envie et besoin de connaître la vraie identité de Banksy? Interviewé par les médias, le patron du musée Banksy de Paris, Aziz Vardar, affirme que le public préférera toujours la légende à la réalité. Banksy, en plus de ses œuvres, est reconnu parce qu'il est énigmatique, parce qu'il est une sorte de justicier sans visage. En effectuant des recherches sur la plateforme Reddit et en scrutant les commentaires sur la page Instagram de Banksy, la presse a constaté que plusieurs internautes démentent l'idée que le public demandait de découvrir l'identité de l'artiste. L'intérêt, c'était le mystère, a écrit un admirateur sous sa dernière publication. C'était « Banksy démasqué », un texte de Marissa Grogué, paru le 17 mars 2026 dans la presse.
L'interdiction des signes religieux affecte l'implication des parents dans les écoles alternatives. Un texte de Zacharie Gaudreau, paru le 5 février 2026 dans Le Devoir. L'interdiction de porter un signe religieux, imposé au personnel scolaire, risque de faire particulièrement mal aux écoles alternatives du Québec, puisque cette directive s'applique aussi aux bénévoles, a appris Le Devoir. C'est que, dans ces établissements, l'implication des parents dans la classe de leurs enfants est obligatoire. Le 30 octobre 2025, le gouvernement Legault a fait adopter son projet de loi 94 qui visait à renforcer la laïcité dans le réseau scolaire québécois. Depuis, les élèves doivent fréquenter leur école à visage découvert, tout comme l'essentiel du personnel scolaire. Il est par ailleurs interdit aux employés de porter un signe religieux, une directive qui s'étend à toute personne qui fournit régulièrement des services entre les murs d'une école, peu importe leur nature, ou encore qui fournit des services aux élèves, même de façon ponctuelle et gratuite. Ainsi, pour fournir bénévolement des services dans l'école de son enfant, dans l'une ou l'autre des situations qui précèdent, le parent doit respecter l'interdiction de port de signes religieux, confirme le ministère de l'Éducation dans un courriel au Devoir. Une clause de droit acquis s'applique cependant aux parents qui fournissaient déjà bénévolement des services dans l'école de leur enfant avant le 30 octobre 2025. Sauf si l'entente en vertu de laquelle ces services sont offerts est renouvelée après cette date. Ils devront alors retirer leur signe religieux ou cesser de s'impliquer dans leur école. Dans de nombreux établissements, cette décision pourrait complexifier le travail du personnel scolaire, comme des directions d'école, la présence de parents bénévoles pour aider au rangement des livres dans les bibliothèques ou pour accompagner des enseignants lors de sorties scolaires permettant d'alléger, quelque peu, les effets de la pénurie de main-d'œuvre, évoquent plusieurs intervenants au devoir. Discrimination par association. Cependant, c'est dans les écoles alternatives, dont le nombre en augmentation approche la cinquantaine au Québec, que cette interdiction pourrait avoir le plus de répercussions. Car dans ces établissements, l'implication bénévole des parents d'élèves, directement dans la classe de ces derniers, est obligatoire. Certaines écoles demandent d'ailleurs un nombre d'heures minimal d'implication bénévole aux parents. Ainsi, si un parent ne peut plus s'impliquer dans une école alternative parce qu'il porte un signe religieux, son enfant ne peut plus aller à cette école-là, relève le porte-parole du regroupement des comités de parents autonomes du Québec, Sylvain Martel. On va arriver à exclure des enfants de leur école en raison des croyances religieuses de leurs parents, déplore M. Martel, qui voit là une sorte de discrimination par association. Une situation que dénonce le porte-parole du Réseau des écoles publiques alternatives du Québec, Pierre Chénier, qui a été mis au fait de cette situation par le devoir. « Je trouve ça vraiment déraisonnable », lance-t-il, déplorant que cette interdiction vise ainsi des parents motivés par leur bonne volonté et leur désir d'aider. « Vraiment, je n'en reviens pas », poursuit M. Chénier. Selon lui, cette directive menace de faire disparaître le modèle unique des écoles alternatives qui cherchent l'inclusion plutôt que l'exclusion. Complications. Ailleurs dans le réseau scolaire, si le bénévolat des parents n'est pas obligatoire, il est souvent encouragé, rappelle la présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires, Kathleen Legault. L'interdiction du port de signes religieux, ça affecte ainsi la bénévole à la bibliothèque, les parents qui viennent le matin au club des petits-déjeuners, mais également ceux qui donnent à l'occasion des ateliers en classe ou encore qui lèvent la main pour accompagner des élèves dans le cadre de sorties scolaires, énumère-t-elle. Ça complique les choses pour les élèves, alors que, clairement, ça n'était pas un problème, déplore Mme Legault, qui ne cache pas son opposition à cette directive. C'est comme si on tentait de régler un problème qui n'existait pas, poursuit celle qui comprend mal en quoi ces problématiques qu'un groupe d'élèves qui va une heure par semaine à la bibliothèque soit exposé à quelqu'un qui porte un signe religieux alors qu'aucun lien d'autorité n'existe entre eux. Une position que partage Kileka Koulibaly, qui préside le comité de parents du Centre de services scolaires de Montréal. Est-ce qu'on est capable de concrètement nous dire en quoi de permettre à un parent de donner 2 ou 3 heures de son temps bénévolement, même s'il porte un signe religieux, ça vient miner de façon négative le milieu scolaire, questionne-t-elle. Pourtant, se priver de l'implication bénévole de certains parents, mais aussi de celle d'organismes communautaires qui offrent de l'aide aux devoirs et dont certains des employés portent un signe religieux, va toucher les élèves et leurs familles dans les prochains mois, prévient Kathleen Legault. Kileka Koulibaly rappelle pour sa part comment les comités de parents ont dû se mobiliser pour inciter ceux-ci à s'impliquer de nouveau dans l'école de leurs enfants au terme de la pandémie. Des efforts qui sont maintenant minés par cette directive de l'État, déplore-t-elle. On va nous couper l'herbe sous le pied encore, soupire-t-elle. Le ministère de l'Éducation martèle pour sa part que l'école québécoise est laïque et constitue donc un lieu où la liberté de pensée et la liberté de conscience des élèves doivent être respectées. Ce qui implique, selon lui, d'élargir l'interdiction du port de signes religieux aux parents bénévoles. C'était « L'interdiction des signes religieux affecte l'implication des parents dans les écoles alternatives », un texte de Zachary Goudreau, paru le 5 février 2026 dans Le Devoir.
L'acceptation brutale d'un papa. Un texte d'Étienne Crevier, paru le 6 mars 2026 dans La Presse. Sa paternité prochaine a amené Étienne Crevier à réfléchir sur la dignité humaine. Il y a quelques mois, j'étais dans un souper chez un ami et il me lance avec la certitude de celui qui énonce une loi de la physique. « Tu sais, Étienne, le monde est rempli de moutons. La grande majorité des gens veulent juste qu'on leur dise quoi faire. Au final, il y a deux catégories. Il y a les loups et il y a les moutons. Et beaucoup de gens ne veulent pas être autre chose que des moutons. » Sur le coup, je n'ai rien dit. J'ai souri et la conversation a continué. À l'intérieur, j'étais profondément mal à l'aise, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt sur le pourquoi. Pourquoi ce malaise? Dans le milieu des affaires où j'évolue, on ne parle que de performance, de croissance, de leadership. On pourrait se dire que cette vision, les leaders d'un côté, les suiveurs de l'autre, est simplement la loi naturelle du marché. Mais cette phrase m'a hantée. En y réfléchissant les jours suivants, j'ai réalisé que ce malaise venait de ma propre vision du monde. Ce qu'il décrivait, c'est une forme de nihilisme, l'idée que le monde est chaotique, un peu tout croche, et que, puisque rien n'a vraiment de sens supérieur, aussi bien prendre le pouvoir, aussi bien être le loup. Ça flirte aussi avec l'utilitarisme, cette idée que la valeur d'une personne se mesure à son utilité pour le groupe. Pour le bien du plus grand nombre, laisse-moi, le loup, décider ce qui est bon pour toi, le mouton. C'est là que j'ai compris que je me rangeais du côté diamétralement opposé, celui de l'humanisme. La dignité humaine. Prenez l'image d'un téléphone cellulaire. S'il fonctionne, sa fonction définit son identité. Mais s'il tombe et se brise, s'il ne peut plus accomplir sa tâche, pour un objet, la réponse est simple. Si ça ne marche plus, c'est un déchet. On le jette. La fonction précède l'essence. Mais pour un être humain, ma dignité dépend-elle de ma capacité à être un loup, à générer du profit, à être utile? Absolument pas. L'existence précède l'essence. Vous existez d'abord, vous vous définissez ensuite. Tu peux être un mouton le lundi et un loup le mardi. Tu as ce choix intérieur. C'est ce qu'on appelle la dignité humaine. C'est la liberté fondamentale de se réinventer. Vous avez le droit d'échouer. Vous avez le droit de perdre votre emploi, de faire faillite, de tomber en dépression. Est-ce que ces échecs font de vous un déchet? Est-ce que parce que vous ne fonctionnez plus temporairement, vous perdez votre humanité? Non. Votre dignité reste intacte, inaliénable. Elle ne dépend ni de votre salaire, ni de votre titre. Et si je fais part de cette réflexion aujourd'hui, c'est que la question n'a plus rien de théorique pour moi. Ma conjointe, Marie-Lise, et moi attendons un petit garçon pour avril. Mais rien ne se passe comme prévu. Les derniers examens ont révélé que son petit cerveau a subi un AVC in utero. Les médecins parlent de malformation, d'hypoplasie cérébelleuse. Il vivra avec une situation de handicap. Il ne sera peut-être jamais le premier de classe. Il naîtra avec des défis que peu d'entre nous peuvent imaginer. Et soudainement, la force de mon ami résonne avec une violence inouïe. Si le monde est divisé en loups et en moutons, où sera mon fils? S'il ne peut pas dominer, s'il ne peut pas performer, au sens où notre société l'entend, est-il un téléphone brisé qu'on devrait jeter? C'est facile d'être humaniste et de dire que chaque vie compte quand on est en santé et qu'on gagne bien sa vie. Mais quand la médecine vous dit que votre enfant ne fonctionnera pas normalement, vos convictions sont mises à l'épreuve. Ma conjointe et moi avons pris notre décision. Nous allons lui donner sa chance, toute sa chance. Mais j'ai peur. Je refuse qu'il grandisse dans un monde qui évalue sa dignité à sa fonction. Je refuse qu'il croise le regard de gens qui pensent que, sous prétexte qu'il y a des limitations, il est brisé. Je veux qu'il rêve, qu'il sache qu'il a le pouvoir de définir sa propre existence, peu importe ses outils de départ. N'oublions jamais que derrière le professionnel, derrière le loup en nous, réside une dignité qui ne dépend pas de notre prochaine réussite. Si un jour vous vous sentez comme un téléphone brisé, rappelez-vous que votre valeur est intacte. Et quand mon fils sera là, j'espère qu'il pourra lire dans vos yeux, non pas un jugement sur ce qu'il ne peut pas accomplir, mais un profond respect pour ce qu'il est. C'était L'acceptation brutale d'un papa. Un texte d'Étienne Crevier, paru le 6 mars 2026 dans La Presse.